C'est le 28 juin, déjà jeudi, hein, semaine de 4 jours, ça passe vite. Hélène Denis qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Quotidien. Bien le bonjour Mathieu.
Bonjour.
À la mise en onde et au choix musical aujourd'hui.
C'est exact.
Et aux éphémérides.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Alors, 28 juin, en 1629, le régime de Richelieu signe avec les protestants le traité d'Alès ou Édit de Grâce, qui leur accorde la liberté de conscience, mais supprime leurs privilèges politiques, supprime les privilèges des assemblées politiques et des places de sûreté protestantes. En 1635, la colonisation de la Guadeloupe par la France. 28 juin 1838, à Westminster, Victoria est couronnée reine. 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand et sa femme Sophie Chotek sont assassinés à Sarajevo par un étudiant serbe, et par le jeu des alliances, l'attentat déclenchera la Grande Guerre le 28 juillet. Signature du traité de Versailles en 1919, toujours en lien avec la Première Guerre mondiale. En 1939, un Boeing 314 inaugure le premier vol transatlantique régulier. 28 juin 1945, le premier vol du petit avion Cessna. C'est l'ouverture en 1953, la première Corvette, voiture sport emblématique. J'ai dit l'ouverture, hein, mais c'est la première Corvette, voiture sportive.
On a ouvert les portes, j'imagine, voilà. Pour l'essayer.
J'étais sur la ligne suivante. En 1969, émeute de Stonewall, série de manifestations spontanées en opposition à l'oppression policière new-yorkaise à l'endroit de la communauté LGBT. En 1988, Ottawa adopte des lois restreignant la publicité des cigarettes et prévoyant des lieux où il est interdit de fumer. 28 juin 1997, à Las Vegas, le boxeur Holyfield conserve son titre face à Mike Tyson, qui lui avait arraché un morceau d'oreille à coups de dents.
Vous avez dit oui. Ça comme Elvis Graton à Las Vegas.
À Las Vegas? Je pense que c'est ma voix qui craque en ce moment.
Peut-être.
En 2000, 28 juin, 2 mois après avoir été repris à des proches... Non, excusez-moi. 2 mois après avoir été repris à des proches anticastristes à Miami, le jeune naufragé Gonzalez rentre à Cuba avec son père. En 2005, par 158 voix contre 133, les communes adoptent la loi instituant les mariages entre conjoints de même sexe. Et un attentat meurtrier à l'aéroport Atatürk d'Istanbul avait lieu un 28 juin en 2016. Pour ce qui est des naissances, Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, l'écrivain et philosophe, et Mel Brooks, né en 1926, et le roi d'Angleterre, Henri VIII, en 1491. Et pour ce qui est des décès, en 1981, le coureur canadien Terry Fox, qui était né, lui, en 1958, est décédé un 28 juin en 81.
Il est mort très jeune.
Tout à fait.
Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse, plus actualité, enfant laissé dans une voiture, oui, on peut survivre. En 2016, à Saint-Jérôme, un homme a oublié son petit garçon toute une journée dans sa voiture. 2 ans plus tard, il livre un témoignage poignant et tend la main au père éploré qui a vécu le même drame la semaine dernière. Exclusivité, trafic de drogue, la menace des cartels mexicains plane sur le Canada. Série, actualité, la ville réinventée, ils innovent et redynamisent un quartier. On parle ici du Mile End. Et pose, petits fruits, les défis de la fraise bio, c'est le chouchou des Québécois, mais côté pesticides, il a mauvaise réputation. Des producteurs veulent renverser la vapeur. Texte de Vincent Larouche, environnementaliste, agriculteur, entreprise et parti de l'opposition ont exigé du changement hier après les révélations de la presse sur le refus de déposer des accusations contre les responsables des déversements massifs de sols contaminés à la campagne. Se disant déçue, la ministre de l'Environnement affirme qu'elle envisage des poursuites civiles et la création d'une escouade policière verte spécialisée en crimes écologiques. La presse a révélé hier que le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, a refusé de déposer des accusations comme le souhaitaient les policiers affectés au projet Naphtalène, une enquête qui a mis au jour un vaste système de déversement illégal de sols contaminés dans la nature. Plus de 80 sites saccagés, dont une bonne part de terres agricoles, ont été recensés par la police qui a saisi 4 711 faux bons de pesée pour des camions de terre. Celui qu'on soupçonne d'être la tête dirigeante de l'organisation ciblée est un ancien associé des Hells Angels. Mais le DPCP ne s'estime pas capable d'obtenir des condamnations en se basant sur les analyses de sol amassées par les policiers. Le président général de l'Union des producteurs agricoles du Québec, Marcel Groslot, était incrédule hier. « Je trouve ça terrible. On voit un stratagème élaboré, on est capable d'en faire la démonstration et le DPCP n'est pas capable de porter des accusations. Je trouve ça regrettable et incompréhensible. » Malgré l'apparent retour à la normale sur les chantiers du Québec, des grutiers continueraient à faire des moyens de pression par la bande en refusant de faire des heures supplémentaires jusqu'à lundi. La situation pourrait forcer la fermeture de certains chantiers ce week-end encore. Selon différentes sources, le mot d'ordre se serait passé à la suite d'une rencontre syndicale tenue mardi soir par les grutiers. Ceux-ci sont en colère contre un nouveau règlement qui permet à des ouvriers non spécialisés de manœuvrer des grues de petite taille. Hors des grands chantiers, sans suivre une formation professionnelle obligatoire de 870 heures. Au cours du week-end, devant le refus des grutiers de se plier à une ordonnance du tribunal administratif du travail qui les obligeait à mettre fin à leur grève illégale, la FTQ et le gouvernement Couillard ont convenu de mettre sur pied un comité indépendant pour étudier la question. Mais une déclaration publique de Florent Tanlet, porte-parole de la ministre du Travail, qui a affirmé mardi qu'il était hors de question de revoir le règlement, malgré la mise sur pied de ce comité, aurait mis le feu aux poudres. Les municipalités de la banlieue sud-ouest ont réclamé et obtenu hier une rencontre de travail avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, MTMDET, afin de proposer des mesures additionnelles pour atténuer la congestion causée par les travaux sur le pont Mercier entre la rive sud et Montréal. La mairesse de la municipalité de Mercier, Lise Michaud, a confirmé à la presse hier que cette rencontre réclamée par la MRC du Roussillon réunira des représentants d'une dizaine de municipalités, du ministère et du réseau de transport en commun EXO, ce matin à Châteauguay, après deux jours de circulation chaotique. Le MTMDET a entrepris des travaux majeurs de réfection sur la plus ancienne partie du pont Mercier, en service depuis 1934. Les garde-fous seront reconstruits, les voies de circulation seront élargies et des travaux de drainage doivent aussi être réalisés d'ici au 20 août. Le coût des travaux est estimé à 12,7 millions. Le chantier oblige toutefois le ministère à fermer complètement la travée ouest du pont et à limiter la circulation à une seule voie par direction, à contresens sur la travée est, et ce, 24 heures sur 24. Deux monuments vandalisés par des militants anticoloniaux. Un groupe de militants et artistes anticoloniaux a revendiqué avoir vandalisé le monument à la mémoire de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, érigé au centre de la place d'Armes dans le Vieux-Montréal, ainsi que celui de John A. Macdonald, situé sur la place du Canada. Ces actes de vandalisme ont été faits, explique le regroupement dans un communiqué, dans l'intervalle des deux fêtes nationales pour marquer clairement le rejet de toute forme de nationalisme colonialiste. Les installations ont été aspergées de peinture rouge dans la nuit de mardi à hier, puis nettoyées hier par les employés municipaux. Un homme lié à la mafia a été tué dans le stationnement d'un restaurant grec de Laval hier soir. Il s'agit du deuxième attentat lié au crime organisé dans l'île Jésus en deux jours. Peu après 20 heures, la police de Laval a été avisée que des bruits de coups de feu avaient été entendus autour de l'établissement du boulevard Samson dans le quartier Chomédé. Les policiers ont trouvé un homme dans la quarantaine atteint d'au moins un projectile d'arme à feu devant son véhicule. Une source bien au courant de l'affaire a confirmé à la presse qu'il s'agissait de Steve Ovadia, considéré comme un proche collaborateur de certains membres influents de la mafia à Montréal. Son décès a été constaté sur place. Mardi, John McKenzie, considéré par la police comme un prêteur usuraire lié aux gangs de l'Ouest, une organisation de criminels montréalais de descendance irlandaise, a été blessé par balle près d'un centre sportif sur la voie de dessert de l'autoroute 440 dans la même ville. Il a survécu à ses blessures. Le gouvernement Couillard a présenté hier sa stratégie québécoise de l'eau, un vaste programme prévoyant des investissements de 550 millions de dollars sur 5 ans, dont 350 millions sont des ajouts répartis entre différents ministères provenant des budgets 2017 et 2018. Au premier chef, la stratégie vise à améliorer et à assurer la qualité de l'eau et son accessibilité. Elle cible particulièrement les eaux souterraines et les puits, mais aussi les installations de traitement de l'eau potable et des eaux usées des municipalités, ainsi que les pratiques agricoles. Les efforts porteront également sur la protection et la restauration des milieux aquatiques et les espèces qui y habitent, ainsi que sur le contrôle des espèces et plantes envahissantes. Parmi les autres objectifs, le plan stratégique entend améliorer la gestion des risques, notamment ceux reliés au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes. Espagne. Racontez-le à un ami, à un parent, à la police dans un tweet. Faites comme vous voulez, mais racontez-le. Ne vous taisez pas, car si vous le faites, vous les laissez gagner. Ce sont les propos d'une jeune Espagnole victime de la meute, 5 hommes condamnés pour abus sexuels et non pour viol, qui s'est exprimée publiquement. Pour la première fois hier, en appelant dans une lettre les victimes de viol à ne pas se taire. Son cas a provoqué des manifestations massives en Espagne depuis 2 mois. Sa visite se veut apolitique, mais le prince William a paru bousculer hier le langage diplomatique usuel en qualifiant les territoires palestiniens de pays lors de sa rencontre avec le président Mahmoud Abbas à Ramallah. Après avoir été reçu par le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, la veille à Jérusalem, le duc de Cambridge a poursuivi en Cisjordanie, occupée par Israël, la première visite officielle d'un membre de la famille royale en Israël et dans les territoires palestiniens. Ses premiers mots pour le président palestinien ont détonné avec le discours communément employé par les diplomates occidentaux, confrontés aux complexités linguistiques du conflit israélo-palestinien. « Merci de m'accueillir et je suis très heureux d'une collaboration aussi étroite entre nos deux pays et des succès enregistrés dans les domaines de l'éducation et de l'humanitaire », a-t-il dit, parlant sans note. La communauté internationale se garde généralement de se référer au territoire palestinien comme à un État ou un pays.
Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. Inquiéter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Ouin, ouin, ouin. Je sens ta main se poser sur la mienne. De joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Jeanne Gérald et Albin de la Simone. Ces mots stupides.
Sujet d'actualité, à qui appartiennent les esclaves? Photo du nouveau spectacle de Robert Lepage, Slave, mettant en vedette la chanteuse Betty Bonifaci. Une controverse, donc, le spectacle qui a continué de soulever la polémique mercredi, jour de première médiatique, les uns dénonçant l'appropriation culturelle dont se seraient rendus coupables Lepage et Bonifaci, les autres plaidant pour la liberté d'expression. Alors, on a une photo de Jacques Nadeau tirée du spectacle Slave. Santé, sexe, drogue et vie brisée. Régent Thomas s'alarme du peu de ressources d'aide pour ceux qui ont une double dépendance ravageuse. Le docteur Régent Thomas s'inquiète de l'utilisation de drogues comme le crystal meth dans un contexte sexuel, notamment chez la communauté des hommes gays à Montréal. Le phénomène appelé « party and play » sur les applications de rencontres PNP ou chemsex est en croissance depuis 2 à 3 ans. Il entraîne non seulement des problèmes graves de dépendance, mais aussi la propagation d'infections transmissibles sexuellement et par le sang. Frais accessoires, nouvelle querelle entre les médecins et la RAMQ. Festival international de jazz de Montréal, c'est l'envolée officielle aujourd'hui même. Archie Shepp, l'indigné, l'œuvre du saxophoniste s'abreuve à la politique. On a une photo de l'artiste qui a 81 ans, a enregistré Attica Blues parce que les choses, dit-il, n'ont pas changé, que les minorités sont toujours opprimées. Hervé Tullet et les livres abstraits pour petites mains. Et Québec veut promouvoir le rejet du plastique à usage unique. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec entame une bataille judiciaire contre la Régie de l'assurance maladie du Québec qui a récemment interdit à ses membres de facturer certains frais accessoires, dont les billets d'absence. Les médecins ne peuvent plus réclamer de frais à leurs patients pour un billet d'absence, une copie de dossier, une copie de CD, un transfert de dossier ou encore le remplacement d'une ordonnance perdue. En toute discrétion, la RAMQ a même ajouté certains services à la liste de ceux qu'elle couvre, c'est-à-dire qu'ils sont désormais considérés comme des services requis au point de vue médical. Selon la dernière grille tarifaire de la Fédération, datée de décembre 2017, un patient devait débourser 25 $ pour obtenir un billet d'absence. La copie du dossier médical coûtait 10 $ pour la photocopie de la première page, puis 50 cents par page supplémentaire. Or, selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ces services sont plutôt réalisés à des fins administratives et devraient pouvoir, à la discrétion du médecin, être facturés à ses patients. Dans la foulée du mouvement grandissant de boycottage du plastique à usage unique, le gouvernement Couillard entend promouvoir la réduction de l'usage de ce plastique qui représente une véritable menace pour l'environnement. Il n'est toutefois pas question d'en restreindre la mise en marché, même si Québec dit vouloir examiner certaines mesures économiques pour y parvenir. En présentant mercredi sa stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, a promis que son ministère investira d'ici 5 ans 3 millions de dollars pour promouvoir la réduction de l'utilisation et le rejet de plastique à usage unique. Selon le plan libéral annoncé à Laval, il est question de favoriser l'utilisation des fontaines d'eau, mais aussi de lancer un programme de mobilisation à la réduction de la pollution de l'eau par le plastique. Celui-ci pourrait notamment mener à une réduction de l'utilisation des pailles. La ministre Melançon a aussi plaidé en faveur de la consommation de l'eau du robinet. En plus de s'engager à réduire la place du plastique, le gouvernement du Québec se fixe comme objectif de réduire de 20 % la consommation d'eau au Québec d'ici 2025 par rapport à 2015. Cette cible s'inscrit dans une stratégie qui doit permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les citoyens, la protection des sources d'eau potable, mais aussi la gestion des eaux usées. Le Québec compte toujours près d'une centaine de petites municipalités qui déversent leurs égouts dans le fleuve Saint-Laurent et ses bassins versants. Rectificatif, nous avons fait une erreur dans l'article « La première de Slav au TNM perturbée » publié dans le journal de mardi sous la plume de la journaliste Marie-Lise Rousseau. Il a été écrit à tort qu'il n'y a aucune personne noire dans la production et la distribution du spectacle. Après vérification, nous constatons que 2 des 6 choristes sont noirs. Toutes nos excuses. C'est vrai, Mathieu, je l'ai prononcé à la française, slave, mais faudrait dire slave. Merci. Montréal consacrera 106 millions sur 4 ans pour stimuler le développement économique en fonction de 3 secteurs géographiques de l'île. Le plan dévoilé mercredi par la mairesse Plante est le 8e de sa stratégie économique qui prévoit des investissements totaux de 360 millions de dollars. L'administration compte notamment verser 10 millions pour améliorer la mobilité des travailleurs. Elle accompagnera aussi les entreprises dans des projets d'investissement immobilier durable et déterminera des axes prioritaires pour le transport des marchandises. Pour la conseiller, l'administration a mis en place un comité consultatif dirigé par le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Ce comité déposera un rapport à l'automne. Le gouvernement fédéral resserre les règles pour les producteurs de cannabis qui rejoindront le marché récréatif lorsque celui-ci sera officiellement légalisé. Davantage d'employés devront se qualifier pour obtenir une attestation de sécurité. Et les patrons d'entreprises devront montrer patte blanche quant à l'identité de leurs principaux investisseurs. Santé Canada dévoilait mercredi le cadre réglementaire qui encadrera les nouveaux producteurs de cannabis récréatif, de même que les producteurs qui alimentent déjà le marché de cannabis médicinal et qui rejoindront le marché récréatif à compter d'octobre. Ces dispositions visent expressément à empêcher les personnes associées au crime organisé d'infiltrer les organisations autorisées, ont fait valoir les hauts fonctionnaires dépêchés par Ottawa pour détailler la réglementation lors d'une séance d'information pour les médias. La ministre de la Santé exigera en outre un rapport annuel faisant état des investisseurs clés d'une compagnie de cannabis, un individu qui détiendrait la majorité des parts de l'entreprise, par exemple, ou qui aurait offert un prêt important au patron. Le dirigeant de l'entreprise devra dévoiler leur nom, leur adresse et préciser le montant d'un prêt ou d'un investissement direct ou indirect auprès du titulaire du permis de production ou de transformation. Le Sénat veut faciliter la vie des personnes handicapées. L'instauration d'un revenu annuel de base garanti pour les personnes ayant de graves incapacités est recommandée. Le Sénat estime qu'il est grand temps de faciliter la vie des personnes atteintes d'un handicap sévère. Il faut simplifier les processus d'obtention des avantages fiscaux fédéraux leur étant destinés et même envisager l'instauration d'un revenu minimum garanti pour elles. Le Comité sénatorial des affaires sociales entreprit en décembre dernier une étude du crédit d'impôt pour personnes handicapées après que la communauté des personnes diabétiques s'est plainte publiquement que ces demandes étaient refusées plus souvent qu'avant. Le Sénat a découvert que les diabétiques n'étaient que la pointe de l'iceberg. Les refus de crédit d'impôt pour personnes handicapées, tout handicap confondu, ont augmenté de 50 % en un an, alors que les demandes n'avaient cru que de 10 % environ. La raison de cette hausse demeure un mystère pour les sénateurs. Dans leur rapport intitulé « Éliminer les obstacles », ils proposent que le CIPH, crédit d'impôt pour personnes handicapées, devienne un crédit d'impôt remboursable. La majorité des gens qui se qualifieraient ont peu ou pas du tout de revenus contre lesquels s'appliquerait le crédit d'impôt, indique le sénateur Art Eagleton, qui préside le comité. Moins de 40 % des 1,8 million de Canadiens atteints d'incapacité grave touchent le crédit d'impôt pour personnes handicapées qui vaut environ 1 200 par année. Enfin, les sénateurs recommandent qu'Ottawa mette en place un revenu annuel de base garanti pour les personnes ayant de graves incapacités. La ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a fait savoir qu'elle prendra connaissance du rapport et y répondra en temps opportun. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment à la revue de presse du Journal de Montréal.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire, l'attendre sur les lèvres. Mais je viens comme le vent, et je viens comme venant. Ouvre ta bouche et place mon nom. Pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous. Porte l'amour.
Rupa and the April Fishes, c'était la chanson maintenant.
À la une du journal de Montréal, paradis fiscaux des riches Canadiens cachent 3 milliards de dollars, c'est une exclusivité du journal. Aussi, camps de vacances, sauveteurs et moniteurs recherchés. Au moment où débute leur saison, des camps de jour doivent revoir leurs activités devant la difficulté à recruter des employés. Frédéric Lanoux du camp Youhou a dû redoubler d'ardeur cette année pour engager suffisamment d'employés. Une photo de Daniel Pilon, mort d'un pionnier. Chantier à Montréal, un système de gestion à l'âge de pierre. Impôts, les Canadiens cachent des milliards dans les paradis fiscaux. Le Trésor public perd chaque année jusqu'à 3 milliards en impôts impayés à cause de riches Canadiens qui cachent des revenus dans les paradis fiscaux. C'est ce que révèle une étude inédite de l'Agence du revenu du Canada, ARC, ou ARC, obtenue par le journal et qui sera rendue publique aujourd'hui. Il s'agit de la première fois qu'Ottawa calcule l'impôt des particuliers qui lui échappe à l'étranger. Le maire trouve les dangers de l'amiante exagérés. Les résidus toxiques des mines ne sont plus utilisés, selon lui. On sort du vieux stock d'il y a 5 ans alors que la santé publique sait que ça a changé, dénonce le maire Marc-Alexandre Brousseau en réponse au reportage du journal publié hier. Le reportage indiquait que Québec sait depuis quelques années que les résidus des mines d'amiante sont contaminés, mais laisse les entrepreneurs et la ville les utiliser sans aucune protection. Ces montagnes de roches contaminées ont été utilisées comme remblais pour le solage des maisons et en dessous de l'asphalte, par exemple. L'Association de santé publique du Québec, ASPQ, s'inquiétait grandement de cette situation. Même si les résidus ne sont plus utilisés, selon le maire, cela n'empêche pas les travailleurs d'être exposés à l'amiante lorsque des travaux d'excavation sont effectués dans la ville, par exemple. Note Simon Lévesque, responsable de la santé et de la sécurité à la FTQ Construction. Selon la docteure Louise Soulière, vice-présidente de l'ASPQ, les dangers sont bien réels. Toutes les formes d'amiante sont considérées comme cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Le maire considère cependant ces craintes comme exagérées. Si c'était vrai ce que dit la santé publique, il n'y aurait personne de vivant à Thetford, soutient-il. Sur les 145 décès de travailleurs exposés à l'amiante en 2017, 16 seulement étaient des mineurs, selon le rapport de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ils peinent à recruter des moniteurs et des sauveteurs. La pénurie frappe l'ensemble de l'industrie touristique de la province. Camps fermés, piscines aux heures d'ouverture réduites, cantines abandonnées, la pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet les colonies de vacances, campings et entreprises touristiques cet été. Le camp Kanawish dans le Bas-Saint-Laurent, qui accueillait des personnes atteintes de déficience physique ou intellectuelle, depuis 45 ans, sera complètement fermé cet été, faute de personnel. Il aurait fallu embaucher 14 moniteurs. Les responsables n'en ont trouvé que 4. La décision de fermer a été difficile. On a dû se faire un peu harakiri, raconte Sylvain Thibouteau, vice-président de ce camp situé à Rivière-Ouel. Une centaine de personnes étaient déjà inscrites, dont certaines depuis une vingtaine d'années. Plusieurs familles et familles d'accueil seront donc privées d'un répit temporaire. leur permettant de prendre des vacances, explique M. Thibouteau, qui compte bien trouver une stratégie pour rouvrir l'an prochain. Mais le problème de pénurie de main-d'œuvre dépasse ce camp et cette région. Des campings peinent à trouver des gens pour faire le ménage des blocs sanitaires. Certains terrains abandonnent leurs restaurants faute de cuisiniers, illustre Simon Tessier de Camping Québec. D'autres, n'ayant pas pu embaucher assez de sauveteurs, réduisent les heures d'ouverture de la piscine ou l'accès à la plage. La pénurie de main-d'œuvre, c'est l'enjeu numéro un en ce moment. J'entends beaucoup de cris du cœur, abonde Martin Soucy de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Plus de 2000 professionnels de la santé canadiens ont signé une lettre ouverte publiée hier et demandant à Ottawa de mettre un terme à la détention liée à l'immigration, ainsi qu'à l'enfermement des enfants et à la séparation familiale. Les signataires, qui sont médecins, infirmières, travailleurs sociaux, psychologues ou sages-femmes, dénoncent l'hypocrisie du gouvernement canadien. Ils reprochent notamment à Ottawa de critiquer la politique migratoire du président américain Donald Trump, tout en détenant et en séparant parfois de leur famille des enfants d'immigrants. Entre avril 2016 et mars 2017, ce sont 151 mineurs qui ont été détenus au pays dans des centres de surveillance de l'immigration, le plus souvent parce que les autorités avaient des doutes sur l'identité de leurs parents. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait émis en novembre dernier une directive visant à limiter au minimum la détention des enfants et assurer l'unité familiale. Il a aussi indiqué que l'Agence des services frontaliers du Canada annoncerait dans les prochaines semaines la mise en œuvre de nouvelles solutions de rechange à la détention, telles que la surveillance dans la collectivité. Des clients écœurés des délais du train reprennent leur auto. Le retrait de départ sur la ligne de Deux-Montagnes dévoile les enjeux à venir. Des clients de la ligne de train de banlieue de Deux-Montagnes envisagent d'utiliser leur voiture ou encore de déménager en raison des perturbations liées aux travaux de construction du train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Je prenais le train depuis 1996, mais là, j'ai arrêté. Je vais travailler en automobile. Il n'est pas question que je me tape 1h30 de transport chaque matin dans la classe sardine pour aller travailler, a confié José Riopel, une résidente de Pierrefonds-Roxborough. Depuis le 27 avril, des autobus sont déployés chaque fin de semaine pour relier certaines gares de train au réseau du métro. Une alternative qui rallonge considérablement le temps de trajet des clients du train et pourrait rendre la ligne orange du métro encore plus achalandée aux heures de pointe si elle est appliquée en semaine, craignent des clients du train. Par courriel, l'Autorité régionale de transport métropolitain a indiqué qu'il est encore trop tôt pour dévoiler les autres alternatives de transport qui seront mises en place en 2020. C'est maintenant qu'il faut faire le travail, pas en 2020. Il faut informer les clients du train et il faut le faire maintenant, a réagi la professeure au département d'études urbaines de l'Université du Québec à Montréal et ancienne présidente directrice générale de l'Agence métropolitaine de transport de 1996 à 2004, Florence Jonca-Adenau. La Sûreté du Québec appelle la population à la vigilance concernant un stratagème de fraude qui cible les automobilistes empruntant le réseau routier de la Montérégie. Des individus à bord d'un véhicule s'immobilisent en bordure d'une route ou dans une bretelle de sortie d'autoroute et simulent une panne. Lorsqu'un automobiliste s'immobilise afin de vérifier si les gens ont besoin d'aide, les fraudeurs invoquent souvent la panne d'essence et demandent de l'argent en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des sommes d'argent ont été soutirées, a fait savoir la SQ par voie de communiqué. Et pour terminer, les députés français ont supprimé hier à l'unanimité en commission le mot « race » de l'article 1er de la Constitution et ont introduit l'interdiction de distinction de sexe. Si ces amendements sont revotés lors de l'examen en séance du projet de révision constitutionnelle à partir du 10 juillet, l'alinéa modifié s'écrira « La France assure que l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion » au lieu de « sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Sur la suppression du mot « race », tous les groupes avaient déposé des amendements pour considérer que la persistance de ce terme, introduit dans la Constitution en 1946 pour rejeter les théories racistes après le nazisme, était aujourd'hui mal comprise et infondée, alors qu'il est démontré qu'il n'existe pas de race au sein de l'espèce humaine.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor na primavera. Na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor. Não me negue seu amor, me entregue seu amor. Na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Nua numa lata, veja flor, chão na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor.
Bye Joe, chanté par Bia.
Les journaux régionaux maintenant dans Le Soleil, c'est un article de Jean-Michel Genois-Gagnon, exclusif. Les larcins et les bris de bouteilles ont privé la Société des alcools du Québec, SAQ, de 11,4 millions de dollars en 2017-2018 a pris le soleil. Les employés ont aussi été plus nombreux à tenter de dérober des produits. Selon des données obtenues par la loi sur l'accès à l'information, la SAQ a enregistré un écart d'inventaire de 3 942 881 $ l'an dernier. Puisque la société d'État vend en moyenne ses produits sur ses tablettes trois fois plus cher, 2,9, que le prix qu'elle a payé, c'est environ 11 434 354 $ qui n'ont pas abouti dans ses coffres. Cela représente une augmentation de 40,5% par rapport à l'exercice financier 2016-2017, où la perte avait été de l'ordre de 8 millions.11. Du côté de la SAQ, la direction tient à préciser que cet écart d'inventaire ne représente que 0,1% de ses ventes. Il tient compte des ajustements d'inventaire périodiques, des bris et des vols. Cela est bien inférieur à la moyenne dans le domaine du commerce de détail au Québec, laquelle se situe à plus de 1%, répond-elle. Toujours selon des données de la SAQ, pour l'exercice 2017-2018, 57 bouteilles ont fait l'objet d'une tentative de vol à l'interne pour une valeur de 2 800 Il s'agit de la plus forte augmentation au cours des dernières années. En 2016-2017, seulement 4 bouteilles avaient été volées et récupérées à l'interne d'une valeur de 75,30 $ et septembre en 2015-2016, 99,65 $. Lors de l'exercice financier 2014-2015, 21 bouteilles avaient été saisies d'une valeur totale de 2 250 $ et 13 $. Cela reste somme toute marginal. Nous n'avons pas de contrôle sur les vols. Notre rôle est d'exercer une surveillance, indique le porte-parole Mathieu Gaudreau. Nous avons de bons employés, mais personne n'est à l'abri des vols, poursuit-il. Rappelons que la Société d'État a mis en place plusieurs mécanismes de sécurité et fait beaucoup de prévention au cours des dernières années afin de diminuer le nombre de vols dans ses rangs. Entre autres, une ligne téléphonique de dénonciation pour les fraudes. Cela reste somme toute marginal. Nous n'avons pas de contrôle sur les vols. Notre rôle est d'exercer une surveillance. Et récemment, c'est M. Gaudreau, Mathieu Gaudreau, le porte-parole de la SAQ, qui a dit cela. Récemment, afin de continuer à serrer la vis, la SAQ a publié un appel d'offres pour dénicher une firme spécialisée en sécurité. Le contrat avec l'ancienne compagnie venait à échéance. L'entreprise aura comme mandat d'offrir un service d'agent d'intervention visant à contrer le vol à l'étalage, la fraude et toute intervention spéciale dans les succursales de la SAQ et ses filiales. Également, elle devra offrir un service d'enquêteur pour des dossiers internes relativement à des délits et ou des infractions politiques. Quant au nombre de voleurs pris sur le fait dans les succursales et les entrepôts de la SAQ, les autorités ont procédé à 397 arrestations. Cela a permis à la Société d'État de récupérer 741 bouteilles de vin ou de spiritueux d'une valeur totale de 43 455 $ et 34 $. Il s'agit d'une hausse de 19,3% du nombre de bouteilles par rapport à l'exercice 2016-2017. Le but est de toujours diminuer les pertes. C'est certain qu'on va en continuer de porter une attention particulière, conclut M. Gaudreau. L'an dernier, la SAQ a enregistré 62,5 millions de transactions, une augmentation de 5 %. Le panier moyen, incluant les taxes des achats effectués par le consommateur dans le réseau des succursales, a été de 47,83 $. Pour sa dernière année financière, la SAQ a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, sur des revenus de 3,25 milliards de dollars. Encore dans le soleil, cette fois-ci, c'est François Bourque pour 100 ans à l'avoir dans le front. Le promoteur Michel Dallaire n'a pas cherché à éluder le principal enjeu de son projet de phare, l'impact sur le paysage. Si tu te trompes, tu l'as pour 100 ans dans le front, a-t-il expliqué aux citoyens venus assister à ses présentations publiques la semaine dernière. On ne saurait mieux dire. Des citoyens s'inquiètent aussi de l'impact du projet sur la circulation, de l'ombre dans le voisinage, du confort de la place publique au pied des tours, du danger de tuer le marché de Québec avec un si gros projet, etc. D'autres s'inquiètent aussi de la parodie de démocratie que sera la consultation publique de l'automne prochain sur un changement de zonage pour le phare, P majuscule H-A-R-E, auquel le maire a déjà donné sa bénédiction. Ce sont de bonnes questions et il y en a d'autres, mais aucune n'est plus lourde de conséquences que celle du paysage. M. Dallaire en est conscient et c'est pourquoi il veut continuer à améliorer son projet. Depuis la première mouture de l'hiver 2015, le projet a changé pour le mieux. Les liens avec le voisinage sont plus fluides, la place publique a gagné en ampleur, on a fait plus de place à la culture et à l'animation. Les architectes ont affiné le design des façades et revu l'orientation des tours. Le résultat reste cependant très incertain. Je trouve encore ces tours lourdes, massives et sans véritable personnalité. Rien de la légèreté, de l'élégance et de l'audace qu'on voit parfois ailleurs. Rien qui puisse en faire une signature distinctive pour Québec. Avoir la plus haute tour à l'est de Toronto sera une distinction bien inutile si l'architecture n'est pas à la hauteur, écrit François Bourque. Il n'y a pas de critère absolu en cette matière et le promoteur a raison de dire que ça devient une question de goût. C'est vrai de tout immeuble, on n'aime pas ou on est indifférent. C'est un moindre mal pour un bâtiment de 2 étages sur une rue anonyme. Les voisins peuvent en souffrir, mais le dommage reste limité. C'est autre chose pour une tour de 65 étages. Et pour terminer, un extrait de l'article dans la Tribune de Claude Plante, « Augmenter sa fertilité naturellement ». Le programme FertiSanté mis en place à la clinique de fertilité de l'hôpital Fleurimont du CIUS de l'Estrie-CHUS a permis d'augmenter le taux de grossesse de 50% chez un groupe de femmes souffrant d'embonpoint, et ce, sans recours à la médication dans plus de la moitié des cas. C'est ce qu'a rapporté le Dr Jean-Patrice Baillargeon, endocrinologue au CIUS de l'Estrie-CHUS et professeur-chercheur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et au Centre de recherche du CHUS. Son programme d'adoption de saines habitudes de vie est proposé comme une solution efficace et à moindre coût pour améliorer la fertilité des femmes obèses. Le programme d'intervention se concentre sur l'alimentation, l'activité physique et les aspects psychologiques. Il augmente aussi les chances de grossesse naturelle sans recours à des traitements coûteux et contribue à diminuer les complications durant la grossesse et à la naissance, explique le chercheur. Il n'existe aucun autre programme de ce genre intégré à une clinique de fertilité au Canada, poursuit-il. L'infertilité touche 15 % des couples au Canada. Aussi, le quart des Canadiennes en âge de procréer sont en surpoids et 19 % sont obèses. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, version 2h, du lundi au jeudi. Pendant l'été, on est là jusqu'à midi, sauf le vendredi, on termine à 11h30. Hélène Denis qui vous accompagne, restez avec nous dans un petit moment. La portion culturelle, on parlera entre autres de Slave et de Daniel Pilon.